Je vous remercie donc tous d'être venus à cet événement parallèle organisé par la France, le Royaume du Maroc et la FAO pour aborder la question de comment concilier la lutte contre le dérèglement climatique et la sécurité alimentaire, la voie vers la conférence de Paris sur le climat. Lors de cette session, nous allons donc aborder plusieurs questions, les risques et les défis du changement climatique et qui peuvent impacter l'objectif de sécurité alimentaire, comment se prémunir contre ces risques et relever les défis, comment faire converger les agendas sur le changement climatique et notre agenda sur la sécurité alimentaire. Enfin, comment sera traitée l'agriculture et la sécurité alimentaire pendant la conférence des Nations Unies sur le changement climatique que nous avons l'honneur d'accueillir à Paris début décembre. Pour donc mener ces débats, nous avons donc 5 orateurs de très grande qualité. Nous aurons d'abord donc notre directeur général, Graziano da Silva, le directeur général de la FAO, qui nous donnera la vision de la FAO de ses défis et de cette articulation complexe entre changement climatique, politique agricole et sécurité alimentaire. Nous aurons ensuite le ministre français Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Forêts et porte-parole du gouvernement français. Nous aurons ensuite M. Mohamed El Gherounj, le directeur général de l'Agence pour le développement de l'agriculture du Maroc. Vous savez que le Maroc accueillera la COP 22 en 2016 et le Maroc a mis en place un ambitieux plan de développement agricole qui s'appelle le plan vert. Et enfin, nous aurons ensuite Madame Hilal Elver, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Et enfin, le docteur Lapodini Marc Atouga, commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, dans toute la mesure du possible, on va essayer de limiter les interventions préliminaires à 10-15 minutes pour pouvoir garder une plage de débat pour vos questions, vos commentaires, sachant que le ministre devra quitter la salle à 19h pour attraper le dernier vol pour Paris. Et le directeur général nous quittera aussi à 19h, mais nous pourrons continuer jusqu'à 19h30 la discussion pour recevoir vos commentaires. Donc, Monsieur José Graziano da Silva, Monsieur le directeur général, quels sont, du point de vue de la FAO, les principaux défis et risques que font peser les dérèglements climatiques sur la sécurité alimentaire et comment vous voyez les actions possibles que nous pourrions mener pour relever ces défis. Vous avez la parole, Monsieur le directeur général.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Serge. I will speak in English. In fact, I will read a statement. Excellency Monsieur Stéphane Le Foll, Minister for Agriculture, Agribusiness and Forests of France, Mr. Mohamed El Gherounj, Director General of the Agency of Agriculture Development of Morocco, Mrs. Hilal Elver, UN Special Rapporteur for the Right to Food, Dr. Lapodini Atouga, Commissioner of Agriculture and Environment and Water Research of ECOWAS, Excellencies, ladies and gentlemen. We meet today only a few days after the adoption in New York of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and 2 months before the crucial climate conference, COP21, to be held in Paris. The 2030 Agenda is a historic commitment, a universal, time-bound blueprint for sustainable development in all its dimensions. Nevertheless, I'm sure you will agree that unless we take urgent action on climate change, we will not reach the sustainable development goals. Even worse, climate change threatens to unravel much of the gains we've had in the fight against hunger and poverty in recent years. Ladies and gentlemen, we can end extreme poverty and hunger by 2030. We know what works, and we have the tools for it. We have made a lot of progress in the MDGs, but we know that climate change threatens to derail our efforts. It is already impacting agriculture and food security and making hunger eradication even more difficult. We also know that climate change hits hardest the world's poorest and most vulnerable. That's because almost 80% of them live in rural areas in developing countries. These populations, like family farmers, pastoralists, fisher folks, and community forests, are highly dependent on natural resources. They are the first to suffer due to the weather-related shocks like drought and floods. Yet, they are the least responsible for climate change and cannot be expected to bear the costs of adaptation. They cannot pay for the impacts of climate change. According to a report published by OECD, last week, significant progress was made towards the annual target of $10 billion to help countries respond to climate change. This is a positive sign, showing that climate finance flows are on the rise. Nevertheless, the report also shows that most resources go to mitigation and other activities. Only 16% of the total amount is directed towards adaptation, including the agriculture sector. At FAO, we believe that agriculture, in the broad sense, including forestry, fisheries, and aquaculture, can and must play a central role in addressing climate change, particularly in adapting to its impacts, such as water scarcity, salinity, or increasing pests and disease of plants and animals. In the lead up to COP21 and beyond, FAO is working to raise awareness on these issues. FAO supports more productive, inclusive, and resilient agriculture development. This can enhance incomes and food insecurity for the world's poorest, which remains our main priority. Agriculture should not be seen only for its potential to mitigate climate change. That its agriculture role is not only cleaning emissions from fossil fuel. Yet, with the right policies, we can also reduce deforestation, overfishing, improve soil fertility, and yes, achieve lower emissions. FAO is thus investing in action areas to support food security, climate change adaptation, and also climate change mitigation. Agroecology, climate smart agriculture, integrated coastal area management, sustainable land management, and forest landscape restoration are examples of FAO activities towards that goal. Ladies and gentlemen, let me finish by saying that we must promote a paradigm shift towards an agriculture and food system that are more productive and more inclusive and more adapted to climate change. We can achieve those three things together. FAO is ready to assist our member countries in this task. We firmly believe that it can be done. FAO is ready to work with partners such as the Governor of France, and I thank the Minister Le Foux for his effort to put food security and agriculture at the center of the climate debates during the COP21 in Paris. In the lead-up to Paris conference, all nations and all stakeholders must strive to ensure an ambitious agreement to tackle climate change. The world counts on it to end extreme poverty and hunger by 2030. We can do it if we work together. Thank you.
Merci, Monsieur le Directeur Général. Alors, Monsieur le Ministre, nous sommes à 7 semaines de l'ouverture de la COP21 à Paris. Donc, je pense que nos collègues ici seront intéressés par comprendre quelle place sera donnée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire à la conférence de Paris, quel message la présidence française souhaite porter. Et puis, bien sûr, vous qui parcourez le monde pour promouvoir cette initiative 4 pour 1000, j'ai envie de vous demander, 4 pour 1000, qu'est-ce que c'est? Vous avez la parole.
Merci, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur Général, Messieurs, Dames. Je voudrais d'abord me féliciter aussi de l'organisation de cette réunion en parallèle avec le CSA, qui doit mobiliser beaucoup de monde à juste titre. Mais la conférence pour le climat de Paris, COP21, qui sera suivie de la COP22 et par nos amis marocains dès l'année prochaine, doit être non pas une fin en soi, mais ça doit être une étape qui engage un processus à l'échelle de la planète pour lutter contre le réchauffement climatique, pour une simple et bonne raison. C'est que si nous ne faisons pas cet effort commun, s'il n'y a pas cette prise de conscience à l'échelle de la planète, les espoirs de développement vont se trouver très vite réduits à néant pour de nombreux pays dans le monde et pour de nombreux hommes et femmes qui vont devoir subir les conséquences d'un échec, qui subiraient plutôt les conséquences d'un échec si les responsables du monde ne pouvaient pas se mettre d'accord sur des objectifs concrets de réduction du réchauffement climatique à horizon de 20 à 30 ans. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 141 pays ont engagé des processus de réduction de leurs émissions, d'atténuation, que chacun de ces pays, selon ses potentialités, ses problèmes, ses spécificités, a fait des choix qui peuvent être différents, mais qui tous vont dans le même sens, de mettre concrètement sur le papier, sur la table, des propositions pour avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique. À côté de ça, un texte est préparé, vous le savez, par des experts. La première mouture a été présentée, je crois, la semaine dernière. Ça prouve que le travail avance. Un accord a été passé aussi, je crois, à Lima sur la question du financement, avec en particulier, enfin, l'engagement tenu qui avait été soi-disant pris à Copenhague de pouvoir mobiliser 100 milliards d'euros d'ici 2020 pour financer le développement des énergies nouvelles dans les pays en voie de développement. Cet accord a été obtenu à Lima et c'est une très bonne nouvelle. Donc se met en place un ensemble de dispositions qui vont, je l'espère, je le souhaite, et on fera tout pour y arriver, vers un accord à Paris d'ici le mois de décembre. Je l'ai dit, cet accord, c'est une étape. Ce n'est pas une fin en soi. C'est parce qu'on a signé un texte que demain, on va s'arrêter. Au contraire, on doit continuer. Et c'est là que la mobilisation sur l'agenda des solutions, sur la mobilisation des collectivités territoriales, les grandes villes, les régions, sur la mobilisation des entreprises et des industriels pour intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans leur stratégie. Ça fait partie aussi des choix qui vont accompagner cet accord, avec dedans des agendas différents et des solutions différentes. Pour la France, l'agriculture, qui a souvent été présentée comme un problème pour la lutte contre le réchauffement climatique, et je rappelle ici les débats qui vont exister sur le fait que l'agriculture, et en particulier l'élevage, c'est beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et que pour résoudre le problème, il suffirait de faire disparaître l'élevage. Je le dis parce que c'est un sujet qui est au cœur d'un débat aujourd'hui à Paris. Je souhaite, nous souhaitons, faire en sorte que l'agriculture, comme c'est proposé par le GIEC, le secteur des terres, soit au contraire une partie de la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et à ce propos, on prend le sujet agricole par deux aspects fondamentaux. Ça a été évoqué et je vais y revenir. Celui de l'atténuation des gaz à effet de serre et celui, bien sûr, de l'adaptation. Parce qu'il y aura nécessité, malheureusement, compte tenu du point où nous en sommes, à faire en sorte qu'on donne des éléments et des outils pour adapter, malheureusement, des zones agricoles à des sécheresses récurrentes et avec les conséquences que ça peut avoir. Deux approches. Mais pour la France, ça nécessite aussi de mobiliser deux dimensions. La première, bien sûr, elle est technique, technologique. Ça va de soi, scientifique. Cette dimension, elle est nécessaire. On a besoin d'avancer dans des techniques qui permettent d'être plus économes, de moins consommer, de moins émettre d'énergie. On a besoin aussi, je l'ai dit, de trouver des solutions pour s'adapter au réchauffement climatique. Et ça nécessite la mobilisation de la technologie, de la recherche scientifique et des industriels qui peuvent être partie prenante de cette démarche. Mais ça ne peut pas suffire. Ça, c'est un message très fort que je suis venu faire passer ici. Ça ne peut pas suffire. Et tous ceux qui regardent le problème de l'agriculture avec sa dimension économique et sociale ne peuvent pas simplement se contenter de dire régler le problème par des questions scientifiques et techniques et puis après, on les appliquera. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi la France a porté ici à la FAO le projet sur l'agroécologie, parce que pour résoudre les problèmes de la durabilité, pour intégrer la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi une dimension économique et sociale, technique, qui mélange le technique et le social, et qui est liée directement au modèle de production agricole, qui doivent dans l'avenir s'adapter à chacun des écosystèmes, qui doivent aussi utiliser beaucoup plus les mécanismes de la nature pour produire, plutôt que d'être tout le temps en train de recourir à des énergies fossiles, à des produits chimiques. Il y a une deuxième révolution qui est en cours, une deuxième mutation de l'agriculture qui est en cours. Après ce qu'on a appelé la révolution verte, qui a vu l'objectif du développement de la production en utilisant du matériel agricole et des produits chimiques, il y a une nouvelle révolution, doublement verte celle-là, qui va utiliser les mécanismes naturels au profit de la production agricole. Et ça nécessite la mobilisation des agriculteurs, des paysans, des éleveurs partout dans le monde, si on veut réussir cet objectif. Et c'est là que l'agroécologie rejoint l'objectif du développement économique, le développement social, et c'est là qu'on peut y ajouter aussi, dans les grands choix stratégiques, techniques et scientifiques, les éléments qui vont venir aider à ce que ce processus soit à la fois efficace pour lutter contre la faim dans le monde, développer la production agricole et en même temps lutter contre le réchauffement climatique. Cette idée s'est traduite par ce projet 4 pour 1000. C'est un projet qui avait été mis sur la table par un chercheur français il y a 15-20 ans et qui avait fait un calcul tout simple qui consistait à dire que si on utilisait seulement 4 grammes sur 1000 grammes utilisés par la photosynthèse dans la production agricole pour les stocker dans le sol, avec ce taux de stockage à l'échelle de la planète, et sur quelques années, on pourrait stocker l'équivalent de ce que l'on émet en termes de gaz carbonique à l'échelle de la planète sur un an, en le stockant dans les sols. C'est quand même un projet avec une potentialité énorme. Faut-il le réussir ? Faut-il y arriver ? Et c'est là qu'il faut combiner et les dimensions techniques, les dimensions technologiques, et en même temps la dimension sociale et économique de la mobilisation autour de nouveaux modèles de production. Pour que chacun comprenne bien le principe du 4 pour 1000, stocker du carbone dans les sols, c'est augmenter la matière organique des sols. En augmentant la matière organique des sols, on augmente la fertilité des sols. En augmentant la fertilité des sols, on augmente la potentialité de production des sols. Et on lie ainsi l'atténuation face au réchauffement climatique, la production agricole et la lutte contre la faim et pour la sécurité alimentaire. C'est ça le projet 4 pour 1000. Et c'est un projet qui, puisqu'il est dans le prolongement de l'agroécologie, nécessitera que partout dans le monde, chaque solution soit adaptée à la situation pédoclimatique. On n'a pas la même situation quand on est en Afrique du Nord et même en Afrique centrale ou Afrique orientale ou Afrique du Sud. On n'a pas les mêmes problèmes ni les mêmes solutions lorsqu'on est en Asie ou qu'on est en Europe. On n'a pas les mêmes problèmes et les mêmes solutions lorsqu'on est en Amérique latine ou qu'on est en Amérique du Nord. On n'a pas les mêmes problèmes lorsqu'on est en Chine, et en Chine, selon les régions, on n'aura pas les mêmes solutions ni les mêmes problèmes à résoudre. Chaque système doit pouvoir s'adapter. C'est pour ça que ça doit mobiliser aussi les agriculteurs. Combiner la recherche, la technique et la mobilisation des agriculteurs. Combiner l'innovation technologique et scientifique avec l'innovation sociale indispensable à la réussite du projet. Si je prends l'agroécologie, l'agroforesterie pour protéger des, en particulier, érosions éoliennes ou hydrauliques. C'est ça l'enjeu. Donc la France porte ce projet global. Elle souhaite mobiliser l'ensemble des acteurs institutionnels internationaux, bien sûr. Elle souhaite aussi mobiliser les organisations non gouvernementales. C'est pourquoi on a mis un comité de pilotage en place qui intègre la FAO, bien sûr, premier partenaire, l'ONU, maintenant, puisqu'on a passé un accord à New York, qui intègre aussi, et c'est important, la Banque mondiale pour le financement, puisque ça fait partie aussi des grands choix qui devront être financés demain. Et puis tous les pays qui vont s'intégrer et s'associer. On préparera le 1er décembre un événement dans le cadre de la COP21 au Bourget, sur place, dans l'intégration de ce projet et des grandes dimensions d'adaptation pour finaliser, pour l'agriculture, un processus de solution. Dans le cadre de la COP21, nous préparerons un texte. Je l'ai dit au directeur général, ce texte, on le négociera avec la FAO et bien sûr les autres institutions pour que, à partir du moment où il y aura un accord au niveau de la COP21, il y ait aussi une déclaration qui engage un processus pour l'agriculture au sens où elle est à la fois un processus économique, je l'ai dit, un processus social et territorial et un processus écologique, au sens où on mobilise les acteurs que sont les agriculteurs, les politiques de développement public, les politiques scientifiques et un certain nombre de techniques et de technologies. C'est la combinaison de ces éléments qui fera la réussite demain pour l'agriculture, à la fois dans son développement, mais surtout dans sa capacité à atténuer ce qu'est aujourd'hui le réchauffement climatique, et aussi dans la capacité qu'on aura à s'adapter en partie au réchauffement climatique. Je le dis pour terminer, ce n'est ni une manière de dire l'agriculture va venir stocker le carbone que d'autres vont produire. Tout le monde doit faire des efforts, l'industrie, les services, les transports. L'agriculture, avec la forêt, peut être un élément de stockage du carbone, mais tout le monde devra réduire les émissions liées aux gaz à effet de serre. C'est un principe de base. Deuxièmement, si l'agriculture des pays en voie de développement, en améliorant la fertilité des sols, en permettant à partir de là de développer la production agricole, va être bénéficiaire ou pourrait être bénéficiaire via le stockage de carbone d'éléments de financement supplémentaires, ça fait partie de l'enjeu. Mais l'Europe aussi aura à stocker du carbone dans ses sols. Et en France, on va présenter des projets qui vont bien au-delà des 4 grammes pour 1000 grammes. On peut et on a des objectifs ambitieux. Aller jusqu'à stocker du carbone à hauteur de 12 tonnes par hectare pour permettre justement de participer, nous aussi, en Europe, la France sera pionnière, mais d'autres pays européens nous rejoindront pour être nous aussi responsables de l'atténuation et du stockage de carbone. Voilà ce que je voulais dire. On compte sur la FAO, on compte sur vous partout pour être mobilisés et sous le projet agroécologique et en même temps sur le 4 pour 1000 pour lutter contre le réchauffement climatique. Je crois que j'ai ma voix qui commence à me perdre, donc je vais m'arrêter en vous remerciant de m'avoir écouté. Merci.
Merci, monsieur le ministre. Le ministre a dit que tout le monde devait faire des efforts. Donc là, nous concentrons la discussion sur la journée d'action du 1er décembre qui concernera l'agriculture. Mais il y aura aussi une journée d'action sur la forêt, une journée d'action sur les transports, une journée d'action sur les énergies. L'idée étant effectivement, dans tous les secteurs, d'identifier des actions favorables à l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Je vais maintenant donc donner la parole à Monsieur Mohamed El Gourounj, parce que vous le savez, l'année prochaine, la COP va passer de Paris à Marrakech. Elle va traverser la Méditerranée et c'est très symbolique puisqu'elle va s'installer avec la future présidence dans un continent africain et en particulier une région, l'Afrique du Nord, qui est déjà confrontée au stress hydrique et à l'impact des dérèglements climatiques. Or, le Maroc a lancé, il y a déjà quelques années, un ambitieux plan de développement agricole, le plan vert. Donc, monsieur le directeur général, je voudrais vous demander comment ce plan aborde cette problématique dont nous parlons aujourd'hui, notamment dans les zones les plus vulnérables, et quelle est la perspective marocaine pour la COP 22 de ces questions sécurité alimentaire, changement climatique, développement agricole. Vous avez la parole, monsieur.
Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, monsieur le directeur général de la FAO, mesdames et messieurs, je remercie la France et la FAO de nous avoir permis de contribuer aujourd'hui, de partager avec vous l'expérience marocaine. Par rapport à votre question, monsieur l'ambassadeur, déjà, le plan Maroc vert, comme vous l'avez dit, il est lancé depuis 2008 et il a mis le changement climatique et l'environnement comme priorité stratégique dans sa stratégie, l'un des piliers. Par rapport à la question de la vulnérabilité et des règlements climatiques et la population vulnérable, il y a deux principales mesures. Les mesures d'ordre opérationnel concrètes qui intègrent la composante adaptation et atténuation et des mesures d'accompagnement qui sont très importantes, c'est des mesures qui concernent le renforcement des instruments économiques, le cadre institutionnel et réglementaire. Rapidement, concernant l'ordre opérationnel, le plan Maroc vert mobilise en moyenne 200 millions d'euros, ce qui fait 30 à 35% du budget total du plan Maroc vert annuel. C'est pour réaliser des projets agricoles solidaires pour ces zones vulnérables au profit des petits agriculteurs qui n'ont pas la capacité d'investissement. Et là, il y a l'obligation d'intégrer la composante changement climatique à atténuation. Un chiffre, un projet sur deux intègre la composante changement climatique. Un autre chiffre qui est important, c'est que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons un programme ambitieux qui est la reconversion de 1 million d'hectares de céréaliculture en arboriculture fruitière dans les zones à vocation non céréalière, parce qu'il y a certains agriculteurs qui réalisent la céréaliculture parce qu'ils n'avaient pas cette capacité d'investissement. Nous plantons annuellement depuis 2009 12 millions d'arbres fruitiers, ce qui joue le double rôle, que ce soit l'atténuation, fixation de carbone, que ce soit l'adaptation, c'est fixer les populations concernées au niveau de leur zone et ainsi contribuer à leur sécurité alimentaire par l'amélioration de leurs revenus. Un autre élément de taille, un instrument opérationnel, c'est qui est pris en considération par le plan Maroc vert, c'est la sécurisation des ressources hydriques. Nous avons, et d'ailleurs nous sommes conscients que relever le défi de la sécurité alimentaire revient en grande partie à relever le défi de l'eau. Et nous avons, le plan Maroc vert, un programme d'économie d'eau de 1,4 milliard annuel par un programme de reconversion de pratiquement 550 000 hectares en irrigation à goutte à goutte. Donc, ce qui représente pratiquement les 20% de notre capacité de ressources hydriques nationales. Par rapport à ces projets agriculture solidaire, dans le cas du plan Maroc vert, c'est l'État, parce que l'État, c'est l'opérateur obligatoire. Elle plante lorsqu'il s'agit de la possibilité de planter. Elle fait les aménagements, que ce soit hydrique, que ce soit pastoral, que ce soit des points d'eau, parce qu'elle concerne les éleveurs pour les stabiliser au niveau local et leur permettre d'avoir, on leur livre les projets pour leur permettre d'être des opérateurs économes, autonomes, et pour qu'ils puissent améliorer leurs revenus, être stables dans ces populations. Par rapport aux mesures d'accompagnement, bien sûr, il y a ces actions directes qui intègrent la composante atténuation au changement climatique, mais il y a des mesures institutionnelles et qui sont très importantes. Et nous avons mis des structures et des agences dédiées. Nous avons une agence de développement des zones oisiennes qui concerne, et de l'organiser, c'est très important parce que c'est une approche territoriale. Nous avons une direction qui s'occupe du développement des zones de montagne, des zones rurales, avec un office national de conseil agricole. Et tout ça, c'est pour permettre un peu accompagner et de permettre à ces populations, par rapport à la composante changement climatique, d'avoir un revenu stable et, en fin de compte, être stable au niveau de leur zone. Il y a également l'Agence pour le développement de l'agriculture. Bien sûr, nous veillons sur l'exécution du plan Maroc vert, mais surtout, c'est par rapport à la mobilisation des fonds. Comme l'avait dit Monsieur le ministre, c'est qu'il y a l'obligation, d'ailleurs nous sommes accrédités par le fonds d'adaptation, par rapport à tous ces efforts que le Maroc a réalisés, et nous avons un appui fort du GEF, du Fonds de l'environnement français, du FIDA, pas mal de bailleurs de fonds qui financent un peu l'intégration des composants de changement climatique. Et ça joue un rôle très important. Il y a également l'outil institutionnel, réglementaire, il y a des lois. Je ne citerai pas la loi sur la biodiversité, la loi sur les cultures biologiques. Je citerai rapidement deux lois qui sont importantes. La loi sur l'interprofession, parce qu'elle régit la relation entre le privé, l'interprofession et l'État pour qu'ils s'engagent tous à réaliser les objectifs du plan Maroc vert en matière de production. Et là, ça donne un peu la connotation de l'approche participative. Tout le monde, les petits agriculteurs, les grands, contribuent à cette approche d'intégrer la composante changement climatique. Il y a également la loi sur l'agrégation. Et je la lis par rapport à la sécurité alimentaire, qui est très importante. C'est que nous avons une loi sur l'agrégation maintenant dans le cadre du plan Maroc vert et qui permet aux petits agriculteurs de se regrouper pour avoir l'accès aux progrès technologiques et garantir eux-mêmes de participer à la sécurité alimentaire. Parce que tous les résultats maintenant montrent que le gap à gagner, c'est au niveau de ces petites exploitations qui n'extériorisent pas le potentiel agricole. Donc il y a un travail de fond à ce niveau. Et je termine par rapport aux mesures, l'instrument économique, c'est l'accès au financement à cette population qui est confrontée à l'aléa climatique et l'assurance agricole. Rapidement pour le financement, en plus, nous avons établi des conventions avec les grandes banques marocaines pour accompagner l'exécution du plan Maroc vert. Mais ce qui est important, c'est que nous avons mis en place une société de financement qui est une filiale du Crédit du Maroc Agricole qui s'occupe du financement de cette population démunie qui n'a pas de garantie, qui n'est pas bancable. Donc elle finance ces petits pour réaliser leurs projets, pour intégrer ces composants de changement climatique. Nous avons également l'assurance agricole. Je ne tarderai pas parce qu'il n'y a que des éminents experts en la matière. Je dis juste un mot que l'État finance, contribue à hauteur de 90% à la police d'assurance en faveur de ces petits agriculteurs qui sont connus dans ces espaces vulnérables. Par rapport à la COP 22 qui à Marrakech 2016, qui normalement doit opérationnaliser la décision de la COP 21, si vous le permettez, je me réfère juste à l'appel de Tanger qui a été lancé le 25 septembre dernier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence le Président français François Hollande, et qui précise un point très important, c'est que l'obligation de faire la COP 21 et la COP 22, deux étapes complémentaires au service de la lutte contre le changement climatique. Mais ce qui est important, ce qu'ils ont souligné, de donner la même importance au changement climatique et à l'atténuation. Et là, je crois que c'est très important. Il est recommandé ce que les fonds qui sont octroyé pour l'atténuation, qu'il faut qu'il y ait un rééquilibrage en matière d'adaptation au changement climatique. Et je crois que nous sommes... il faut trouver une solution pour mobiliser les acteurs de la finance climat pour pouvoir aider les pays en voie de développement à mettre en place leur stratégie de résilience et une stratégie d'adaptation au changement climatique. Voilà, Monsieur le Président, et je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur le Directeur Général, et merci pour avoir partagé avec nous votre expérience et puis votre engagement sur la finance climat, dont on sait bien que ce sera un point clé, y compris pour l'accord à Paris. Je vais donc maintenant passer la parole à Madame Elver, rapporteuse sur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Madame Elver, on a rencontré avec le ministre aujourd'hui la société civile et ils ont insisté sur l'approche basée sur les droits et sur l'importance du droit à l'alimentation pour promouvoir la sécurité alimentaire, y compris, bien sûr, les questions touchant au foncier. Donc je voudrais vous demander quelle est votre vision du rôle de ce droit à l'alimentation, non seulement dans le contexte de la lutte contre la sécurité alimentaire, mais par rapport à ces questions touchant à la lutte contre le changement climatique, et notamment, bien sûr, comme le disait notre collègue marocain, par rapport aux populations les plus vulnérables.
Thank you very much, including me to a distinguished panel and distinguished guests. Yes, I'm starting from exactly what you are trying to raise in relation to my position as a United Nations Special Rapporteur on the right to food. I'm looking at the climate change issues and policies from the perspective of right to food, which means vulnerability of the people that already mentioned, 80% of the vulnerables are the most impacted by the climate change, more than any others, and many of them are living in the developing countries. So the issue is the justice. The issue is the climate justice, not only climate policy, not only greenhouse gas emission reduction, not only several of the policies that have been in the place, but also we have to deal with this issue from the perspective of the human rights and justice. If this morning listened Mrs. Mary Robinson, the former High Commissioner, I am sure I was not here. She articulated very clearly about the importance of the justice, human rights, and the climate change. It has to be in the same place, in the same document, that this triangle will be together. If we can't do the triangle, we'll be together. We're going to fail again, and we're going to fail very seriously. So what is happening right now? What is the position in relation to UNFCC or UN Framework Convention on the Climate Change and the food security and the human rights? Unfortunately, they are not together right now. And we are trying very hard to put them together, but still we are not successful. We have 8 more weeks, and I am asking all the delegates that you have to work with us to make the human rights approach to the climate change convention, most importantly in Paris document, and also you have to really understand that food security is not exactly in the part of the climate change convention. When this climate change convention was established in late 1980s, we were living in a different world. We were living in a very different world, and we were thinking that food security is the food production. But we understood that food security is not food production, because even the production is not anymore a big problem, but still we have the hunger and malnutrition around the world. We're talking about 2 billion people, malnutrition, 795, hungry. So this unfortunate policy of the late 80s, still in our framework convention. We cannot change a framework convention. It's not possible, but we can right now make changes in the Paris Protocol for the future activities. And we tried very hard as a Human Rights Council, UN Human Rights Council, and several of friendly governments to put the human rights approach and the food security and other economic and social rights in the climate change convention, in the draft. It was in the draft when this draft was 89 pages. But now the draft is squeezed to 20 pages, actually less than even 20 pages, 9 pages. And unfortunately, this disappeared from the major articles, and now it's only as a COP decision about the food security, human rights, gender equality, protection of the smallholder farmers. They all are right now only COP decision, which is legally is not a comprehensive way of dealing with these issues. What we should do, again, we have 8 weeks. We have to really put these very important policy issues and the legal entitlement issues to our climate change protocol in order to protect vulnerable societies, vulnerable people that we talk about, is smallholder farmers, we talk about the projects. If we don't do it, what happens? If we don't do it, what happens? We can easily see right now about the mitigation and adaptation policies that we have been doing since early 1995. These policies are not really protecting smallholder farmers or the vulnerable peoples. They are focusing on reducing the greenhouse gas emission. They are mainly focusing on these issues. Because they are mainly focusing on these issues, maybe it started as a kind of well-meaning projects. We always start as a well-meaning projects, but at the end, sometimes the well-meaning projects is become very bad, unintended consequences. In order to avoid this, we really have to make the human rights approach processes, procedural rules, that every kind of policies we are talking about, and we are presenting new projects right now in order to reduce greenhouse gas emission, making the soil better way, and dealing with agroecology is extremely important. We support agroecology because agroecology is economic, social, and the political parts of the our climate change will be together. But we have to be very careful what we are supporting. In next 5 years, 10 years, or 20 years, when we are living in a completely unequal world, who will be really get this profits, or not profits, but the major issues? Because when we talk about the mitigation policies, for instance, we know right now in Europe, biofuel did fail. Biofuel did fail. We are trying to change the biofuel projects right now because biofuel projects made the vulnerable people more vulnerable, and they compete with the people's right to food in order to reduce the greenhouse gas emission. Also, clean development mechanism, maybe it was well-meaning mechanism, but at the end, we saw that smallholder farmers or the fish folks, or especially the forest people, they are complaining about this project. So if we really talk about the protecting the vulnerable, we really have to make this processes, these mechanisms in the convention, then we can really reduce the unintended consequences of the new project. Let me stop here, and I'm ready to answer your questions. Thank you.
Merci beaucoup, Madame. Et je suis maintenant très heureux de passer la parole à Monsieur Atuga, le commissaire à l'agriculture de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que, bien sûr, la CEDEAO rassemble des pays qui sont particulièrement sensibles à cette question de la sécurité alimentaire et qui sont déjà fortement touchés par les dérèglements climatiques. Donc, Monsieur Atuga, nous aimerions avoir votre vision de cette question. Quels sont déjà les impacts du changement climatique sur la région, et quelles sont les initiatives, actions qui ont déjà été engagées, je le sais, à la CEDEAO?
Merci, Monsieur le modérateur. Monsieur le directeur général de la FAO, Monsieur le ministre français de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs de la table, bien sûr que vous l'avez si bien dit tout à l'heure, les pays les plus touchés, ou du moins les communautés les plus touchées, sont celles qui sont pauvres. Et l'Afrique de l'Ouest est un pan des pays pauvres de la planète. Notre engagement pour le changement climatique relève de plusieurs années déjà. Dans le cadre de notre politique agricole commune, que les 15 États de la CEDEAO se sont dotés, et de la politique agricole, de la politique d'environnement, politique régionale sur l'environnement qui se sont dotés, et enfin de notre politique sur l'eau, les trois de mon département, nous avons élaboré des cadres d'intervention et traduit ces cadres d'intervention en plans nationaux d'investissement pour pouvoir adresser le problème du changement climatique qui nous est là. Trois choses. Sur le plan agricole, nous nous sommes engagés avec les États à poursuivre et à adopter les technologies et les techniques qui nous permettent de mitiguer les effets du changement climatique. Concomitamment, nous nous sommes permis, dans le cadre de l'environnement, de la politique environnementale, d'adresser le problème du reboisement, de la foresterie, parce que nous sommes très convaincus que si nous n'avons pas assez d'arbres, nous allons continuer par avoir des effets et le carbone va beaucoup s'échapper dans la nature et que nous allons avoir des problèmes. Troisièmement, sur le plan de l'eau, nous avons émis et élaboré un programme de gestion des écosystèmes transfrontaliers, parce que c'est là où réside notre puissance en production d'eau, c'est là où résident nos ressources les plus importantes en ressources d'eau, et nous devons les protéger, parce que sans l'eau, il n'y a point d'agriculture, sans agriculture, il n'y a point de sécurité alimentaire. Donc, nous nous sommes concertés sur ces trois problèmes. La première des choses que nous avons faites, c'est que dans le cadre du programme détaillé et de développement de l'agriculture africaine, et que nous sommes dotés de cette politique, et nous avons concomitamment élaboré plusieurs plans. Sur le plan de l'Alliance Agir au Sahel, pour pouvoir développer la résilience des pays, pour renforcer la sécurité alimentaire, c'est un des premiers programmes que nous avons fait. Deuxième programme, nous avons créé ce que nous appelons une réserve régionale alimentaire pour lutter contre la faim. Nous sommes la seule sous-région, ou bien la seule région au monde, où si nous avons une catastrophe, les pays ne pourront pas venir en aide aux populations, même pas pour 2 jours. Et ce n'est pas acceptable. Pour la sécurité alimentaire des populations, il faut quand même avoir des stocks de proximité. Nous ne disons pas stock physique seulement, mais stock aussi financier qui nous permettent d'intervenir un temps soit peu en attendant que sur le marché international, nous puissions trouver les réserves qui permettront de venir en aide aux populations. Alors, les initiatives que nous avons promues surtout dans le cadre de l'agriculture intelligente face au changement climatique. En avril passé, nous avons organisé à Bamako une grande conférence sur ce thème-là et nous avons décidé de mettre en charge, de décliner l'agriculture intelligente face au changement climatique en termes de techniques et de pratiques qui permettront une agriculture durable des terres et l'agroécologie et des investissements agroécologiques. Voilà. Pour cela, nous avons développé, diffusé et géré les savoirs agroécologiques, notamment par le renforcement de la formation agricole. Nous allons soutenir les producteurs ruraux pour l'adoption de pratiques innovantes, parce que c'est très important qu'aujourd'hui, face à ce que nous avons, que nous cherchions des pratiques innovantes pour faire face à la productivité et à la résilience des populations. Enfin, nous avons mis en place des dispositifs de production et de diffusion d'informations climatiques. Parce que le producteur a besoin d'informations pour savoir comment il pourra s'adapter à ce qui arrive. Si nous n'informons pas nos producteurs, ils vont continuer à faire de la production comme ils le faisaient, sans avoir l'information sur le changement climatique et les effets de ce changement climatique-là. Alors, troisièmement, nous avons fait des efforts financiers par la Commission en vue de la période 2015-2020. Parce que c'est important d'avoir des programmes d'un côté, mais c'est important aussi de les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, il nous faut des ressources. Et alors, la Commission s'est dotée et a fait des efforts et pourra mettre à l'échelle de l'agriculture l'intelligence face au changement climatique dans la période où nous passerons par la sélection, par des approches d'analyse multicritères et des techniques agricoles sobres au carbone. Ceci, c'est pour pouvoir investir dans ce domaine-là afin de pouvoir absorber le carbone. La CEDEAO soutient aujourd'hui l'idée de cette initiative 4 pour 1000 portée par la France. Nous pensons que c'est une initiative et que c'est une solution au stockage du carbone dans les sols et qui serait vraiment profitable à l'agriculture africaine que nous avons. Enfin, au niveau sous-régional, à l'initiative de la CEDEAO, comme je vous le disais tantôt, en novembre 2015, il y aura la politique et l'évaluation de la politique agricole de la sous-région, 10 ans après. Parce que nous avons, pendant 10 ans, mis en œuvre des plans nationaux d'investissement, des plans régionaux d'investissement. Il nous faut faire un arrêt, savoir où nous en sommes, si nous sommes sur la bonne voie dans le cadre des pratiques qui sont profitables au changement climatique. Et nous le ferons en novembre de cette année. Nous avons pris un engagement collectif des acteurs pour développer l'agriculture intelligente face au changement climatique d'une manière qui soit opérationnelle, efficace, sociale et équitable. Et surtout, institutionnellement cohérente. Parce que nous ne voulons pas nous mettre à faire des choses sans avoir consulté ce qui se fait aussi bien sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international. Il faut que nous soyons cohérents. Il faut que les interventions sur notre territoire soient des interventions cohérentes. Alors, voilà en gros, si je pouvais dire, ce qui se fait. Nous sommes d'ailleurs dans le cadre de la foresterie, c'est avec la FAO que nous menons ce programme-là. Et je suis ravi de dire merci à M. le directeur général pour l'appui que son institution apporte à notre communauté. La CEDEAO invite donc la communauté internationale à soutenir la politique agricole que nous emmenons et à venir vraiment évaluer cette politique avec elle à Dakar en novembre prochain. Nous invitons la communauté internationale également à soutenir l'Alliance sur l'agriculture intelligente face au changement climatique en Afrique de l'Ouest créée en juin 2015. Nous invitons troisièmement la communauté à soutenir les efforts d'intégration de l'agriculture dans les négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ceci est très important que nous le fassions. Enfin, nous invitons la communauté à participer à une mobilisation accrue de nos partenaires techniques et financiers et de la recherche scientifique pour assurer le financement du développement des techniques innovantes et de la mise à l'échelle des pratiques d'agroécologie et de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Voilà en gros, monsieur le modérateur, ce que j'avais à dire. Je suis ouvert à toutes les questions qui me seront posées. Je vous remercie.
Monsieur le commissaire, notamment pour avoir fait référence au 5 novembre où se tiendra donc à Dakar l'atelier sur l'agroécologie pour le continent africain qui fait suite au symposium qui avait été organisé ici et où le ministre sera. On va faire juste une petite suspension de séance pour permettre au ministre, au directeur général de nous quitter puisque le ministre doit prendre le dernier avion pour la France, malheureusement. On n'a pas encore la capacité de retarder les vols, mais ça viendra peut-être. Et puis on reprendra ensuite la discussion et on ouvrira donc la parole à la salle pour des questions ou des commentaires.
Merci. Merci.
Donc, nous allons être rejoints par Martin Frick, que vous connaissez tous, je pense, le directeur climat-énergie de la FAO, et Marie-Hélène Le Naff, qui est sous-directrice au ministère français de l'Agriculture, et donc, bien sûr, travaille avec le ministre sur tous ces sujets. Je propose qu'on prenne un premier tour de questions, si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis, je pense qu'on a quand même un peu de temps. On a 30 minutes, donc on pourra certainement prendre un deuxième tour de questions, si vous en avez. Donc, monsieur l'ambassadeur de Chine, vous avez la parole.
Thank you, Mr. Chair. Mr. Ambassador Thomas of France, thank you very much to invite me and my Chinese colleagues to participate. It is very important and very interesting side event. Through this side event for Chinese side, we receive a lot of very important, very useful information from your side. I appreciate it. To my knowledge, I think the climate change issues produced the process of modernization. Okay, since almost two or three centuries, the vigorously efforts has been made to promote the development of urbanization and industrialization. But the process of modernization, also now we have the climate change issues that is seriously affect the development of economy and the society. At present, that is very serious, give us the negative influence to the development of agriculture, especially now in the world. We haven't to solve the food security issues. At present, the food security crisis also is give us a big pressure to the development, especially also just now, Madam, you said human rights. Okay, that's very important issues. How can we improve the life standards, life conditions for vulnerable populations? Okay. Now, I'm glad. That is, how can we solve the climate change issues at present? Since long time, a lot of discussion, especially through a lot of negotiation. Now, allow me to say, we have the common ideas. My question is, please, friends, you are developed countries, you are big agriculture countries. Okay, at present, a lot of officers, a lot of experts, even the technicians says, at present, how can we solve the climate change challenges for human? That means we need financial support. Just now, the agricultural minister said, at present, a very important issue is the technology, is the innovation work. I totally agree with these ideas from the France agricultural minister. The funds, technology, Also, I think at present we should pay greater attention about training, to organize the training course for experts and technicians, even local farmers in developing countries, and also education issues to increase the awareness for population, to pay greater attention about climate change issues. But my question is, please, how can we turn the consensus into actions? Which measure can we establish? Okay, thank you.
Merci, Monsieur l'Ambassadeur. L'Espagne.
Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor embajador de Francia, y muchísimas gracias al panel por una ese evento tan oportuno en el tiempo. Yo, si tuviese que hacer una síntesis de lo oído, me quedaría con excelentes presentaciones de todos los panelistas, pero con una cifra y un concepto. La cifra a la que dice el ministro Le Foll cuando habla de 12 toneladas de carbono por hectárea a ser fijadas como objetivo, diría amén, forever and ever, que se cumpla de verdad, ¿no? Y la segunda es cuando la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de alimentación habla de la justicia climática, ¿no? Yo creo que ese sería el lema del y ojalá efectivamente en París se avance en ese concepto. Y permítanme que haga un comentario. En noviembre del 2004 se aprueba aquí en FAO, además conviene decirlo exactamente como se llama en este caso en español, las directrices voluntarias para la realización progresiva de los derechos de la alimentación. Esto del tiempo es algo relativo. Los que empleamos tantas horas en discusiones internas aquí en esta casa, a veces nos parece que el tiempo va muy lento. Y si lo pensamos en los términos de vidas que desaparecen por culpa del hambre, es tremendamente lento. Pero si lo pensamos más en la propia historia nuestra, de la humanidad, pues realmente 10 años no son nada desde que se aprueba esa realización progresiva. Si efectivamente, después de otra fecha significativa como es el año 1948 con la aprobación de los derechos humanos, con el 2004 la realización progresiva, progresamos efectivamente en ese sentido, sería un gran éxito. Y acabo con una cuestión, porque al final, ¿qué es la justicia? La justicia, pues en el fondo, al menos para nosotros, sería aquello que debe hacerse según derecho o razón. Para que se pueda hacer justicia tiene que haber dos cosas. Derecho, que ya los tenemos, precisamente en esas directrices, y razón, porque yo creo que es razón de pura justicia, perdón por la redundancia, el que efectivamente se avance en ese momento. Por tanto, mis felicidades y todos los éxitos a la COP en París. Muchísimas gracias.
Merci. Autre question, commentaire, et puis je donnerai la parole aux collègues orateurs pour réagir. Pas d'autres questions pour l'instant? Si, la société civile.
Bonjour, merci. Une question, enfin une réaction suite aux différentes interventions. Je remercie d'ailleurs tous les intervenants pour les exposés. Je voulais juste notifier que dans le texte de l'accord, le non-paper, comme on dit, de l'accord tel qu'il a été diffusé pour la COP21, le mot agriculture n'apparaît pas une seule fois aujourd'hui. En effet, comme l'a noté Madame Hilal Elver, on parle de droits humains et de sécurité alimentaire dans ce qui relèvera de la décision de Paris, mais rien concernant ni l'agriculture ni la sécurité alimentaire dans l'accord, et donc rien qui va qui concernera ces deux sujets directement dans ce qui sera mis en place à partir de 2020. Or, tous, on sait ici, en étant partie prenante du CSA, que sur le sujet de l'agriculture et du changement climatique, on y travaille depuis plusieurs années ici au CSA. On a eu différentes discussions sur agriculture et changement climatique, sur les agrocarburants. Donc ma question, c'est comment faire pour que ce qu'on travaille ici entre différents acteurs puisse finalement venir nourrir à partir de l'année prochaine, notamment dans le cadre des discussions de l'organe technique, les discussions sur le modèle agricole qu'il est déterminant aujourd'hui, sur lequel il faut travailler pour pouvoir lutter à la fois contre la faim et à la fois contre les changements climatiques. Merci.
On va peut-être déjà essayer de réagir à ces premières questions et commentaires, et puis on vous redonnera la parole. Je ne sais pas qui veut commencer, Madame Elver, sur la question du droit, et puis Martine et Marie-Hélène.
First of all, thank you very much, distinguished delegate of Spain. It is important, climate justice, we keep talking about it, but it shouldn't be just an empty word, because if we can't make the legal entitlements about the human rights, climate justice will be just a slogan, and the civil society is really pushing hard, but it is not happening because it will not be included in the convention's legal entitlement process. This is extremely hard things to do. But the governments are here. They can do it. We can't do it anything. As a United Nations body, we will not be able to make any kind of suggestion. We can make the suggestions, but the real initiatives of the government. This is exactly the I am now connected with the civil society's question. If the governments are very clearly aware what words are meaning. It's extremely important, as you know, lawyers are playing with the words. These words, how possible that the right policies will be initiated to the convention or the next protocol is the important. Civil society will follow the governments, and governments will make these changes. We all have a responsibility. We can provide or give advices, and the civil society pushes, and the governments will do that. If we have a procedural rules in relation to human rights, economic and social rights, you are talking that there is no food security, and I am very sorry not to see anything about the right to food, because sometimes food security is totally different than the right to food. Food security could be a policy issue, but the right to food is an entitlement. The governments can make the policies. It is possible, but if it is not right, the citizens cannot make any kind of accountability to their own government, domestically and internationally. So the most important thing, if we really make the real climate justice, we have to put the human rights approach to the convention. It is very, very difficult, especially economic and social rights is very difficult to be included that kind of framework, another area of the UN. We are sort of cross-passing. We are making policy coherence in the global level. But I think the climate change is a very good example to make these two policies together, because without making this inclusion, we cannot solve the climate justice. Maybe we will be able to solve the climate change, but then maybe the biggest price will be paid by the communities that they are vulnerable. So that's a very important part. Thank you very much.
Martin. Thank you very much, Ambassador. And let me also start with the intervention of His Excellency, the Ambassador of Spain. I think we are in a very interesting moment in the climate debate in which the issue of climate change as an ethical issue, as a question of equity and a question of climate justice is really becoming mainstream. I hear it in many interventions. The encyclical letter of the Pope was published not so long ago. So this is becoming mainstream. And I think the new question is now, so if we all agree that climate justice needs to be provided, how do you actually create climate justice? And this is where I believe that agriculture is sitting right in the middle between the fight against poverty and the fight against climate change. And so how do we provide it? How do we turn, as the ambassador of China said, consensus into action? Well, I think it's mainly about two things. One is we have a staggering 144 INDCs, which were now provided to UNFCCC Secretariat, some of them in the last second. This is a heartening result, and in most of the INDCs, you will find agriculture or land use or combinations of it featuring prominently in the INDCs. So yes, agriculture is actually at the climate talks in Paris, although it's not explicitly in the text, but it plays a big role in that. So we have a momentum where, for the first time in a long time, agriculture can actually be considered, as the Minister of France said, as a part of the solution and not as the most controversial issues in the negotiations. This is very promising. Now, if you look at INDCs, particularly from least developed countries, of course they do have the land sector and agricultural sectors in it, because what else should you have? And that is the one thing that you have. So we should honor the commitment, which is also a commitment to include and to work actively in a political process to solve a problem that the LDCs did not cause. We should honor this commitment by providing investment possibilities in exactly these sectors. And one of the results I would love to see from Paris would also be guidance for the Green Climate Fund and also other financing instruments, not under the convention because that's only the GCF, but related to climate finance, being steered towards investment in agriculture, in developing countries, into providing food security. And one last remark, I was heartened by your comment on food security. Indeed, in the convention in Article 2, food production is mentioned, and we know this is outdated language. And to our colleague from civil society, I think this is one of the efforts we should all undertake to basically explain that there's a big difference between food production and food security and how we work towards food security. And maybe I limit myself to this for the first round of interventions. Thank you.
Merci. Peut-être apporter quelques éléments de réponse à la fois à l'intervention de la représentante de la société civile et de Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Alors, effectivement, l'agriculture en tant que telle n'est pas mentionnée à ce stade dans l'accord, et nous savons tous que c'est pas très facile jusqu'ici de parler agriculture et climat. Sécurité alimentaire est mentionnée. Bon, voilà, l'accord de Paris sera une étape. Ce n'est pas tout. Et en fait, on a choisi, pour ce qui concerne l'agriculture, d'essayer de montrer plutôt à travers des actions que l'agriculture peut être une solution. Ça n'est ni uniquement une victime, ni un secteur émetteur de gaz à effet de serre uniquement, mais aussi un secteur qui peut proposer des solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique. Donc on travaille plutôt sur la mise en place d'une journée consacrée à l'agriculture, plus précisément une demi-journée, qui présentera un certain nombre d'initiatives concrètes à cet égard. Et bon, voilà, donc dont le 4 pour 1000 que vient de présenter le ministre. J'ajouterais également que du point de vue des choses concrètes, le fonds vert, et comme l'a dit le président François Hollande, sera également accessible à des projets touchant à l'agriculture. Donc ça, c'est aussi de la part du concret. Donc je crois qu'il faut se dire qu'on est au début d'un très long travail sur le secteur agricole que nous souhaitons initier à Paris en décembre prochain avec les partenaires de la FAO et le maximum de partenaires, que ce soit de gouvernement, d'organisation, la société civile, etc. Revenons juste un instant aux 4 pour 1000. Je voudrais juste insister aussi sur les deux volets de l'action, c'est-à-dire que nous avons besoin de la recherche et de l'innovation. Donc on a besoin, pour progresser sur ces questions d'agriculture et de climat au sens large et sur la question du carbone au sens particulier, de la science, de mesurer, de connaître les effets des pratiques agricoles, de certaines techniques ou technologies, c'est très important. Et puis on a besoin aussi de mettre en valeur les actions, les engagements en s'appuyant sur les conditions dans chaque pays, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, et ce qui peut être fait en France, hein, n'est pas réplicable en tant que tel partout dans le monde, le ministre l'a dit tout à l'heure, mais il faut adapter les solutions à chaque contexte. Voilà un petit peu ce que je voulais apporter comme réponse.
Bien. Oui, monsieur le modérateur, je me demande pourquoi parfois, nous, les hommes de cette terre, nous jouons avec le feu. L'agriculture produit 24% des effets et des gaz à effet de serre. Et c'est beaucoup. C'est le quart. Pourquoi il ne devait pas être mentionné dans cet accord? Pourquoi 24%? Il ne faut pas que les intérêts égoïstes de certains pays nous amène à exclure une activité qui produit beaucoup de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que l'agriculture ne serait pas mentionnée dans cette convention? Je pose la question à tout le monde.
Peut-être si je peux donner quelques éclairages par rapport à ce qui a été dit par la société civile et puis l'ambassadeur de Chine aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tournant qui a été amorcé à Lima et que nous essayons d'accentuer à Paris, c'est vraiment d'avoir un accord global avec 4 piliers. Il y a l'accord, donc la négociation, qui porte quand même essentiellement sur la réduction des émissions. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui pour inclure l'agriculture. La sécurité alimentaire, c'est plus débattu, mais l'agriculture en tant que telle, parce que certains pays ne le souhaitent pas, et notamment des pays en développement qui ont peu de tissu industriel et donc pour lesquels le secteur agricole représente une part très importante du produit intérieur brut et donc par définition de leurs émissions. Il y a les contributions nationales, très importantes. Aujourd'hui, il y a quand même 143 pays qui ont envoyé au secrétariat de la conférence leurs contributions sur leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente à peu près 80% des émissions. Et ça, l'idée, c'est bien d'avoir un processus dynamique et que périodiquement, on puisse réévaluer, on l'espère, à la hausse, l'ambition de ces contributions nationales. Ensuite, il y a l'agenda des solutions que nous avons beaucoup poussé avec la présente présidence péruvienne. Et là, l'agriculture et la sécurité alimentaire, nous avons voulu qu'elles soient dans cet agenda des solutions pour qu'enfin on articule ces débats sur sécurité alimentaire et changement climatique et qu'effectivement on puisse commencer à lancer des initiatives favorables tant à l'adaptation qu'à l'atténuation. Et puis, il y a le point que soulevait l'ambassadeur chinois, qui est bien sûr très important, la question du financement. Vous savez qu'il y a cet objectif emblématique pris en 2009 à Copenhague de mobiliser d'ici 2020 100 milliards de dollars par an sur la lutte contre le climat provenant de diverses sources. Il y a une partie de ces financements transiteront par le fonds vert, mais uniquement une partie. Aujourd'hui, on est à plus de 10 milliards de contributions sur 4 ans annoncées. Ce qu'essaye de faire la France, c'est bien sûr de créer le mouvement et de mobiliser, parce que nous avons bien conscience que la capacité de répondre à ce défi sur le financement conditionnera en partie l'accord juridique sur le climat. Le président Hollande a donc profité de l'Assemblée générale des Nations Unies et le sommet du millénaire pour faire des annonces sur la forte augmentation des financements français alloués au climat, mais d'autres pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg, ont aussi fait des annonces conséquentes. Et puis il y a un travail très important qui est en cours, qui a été demandé à l'OCDE et à Climate Policy Initiative, qui est un dossier que j'avais lancé il y a 2 ans, qui est un travail de rationalisation de la comptabilisation des financements sur le climat, avec l'idée d'avoir une évaluation fiable, transparente et indépendante des financements climat 2013-2014 pour qu'on puisse ensuite vraiment avoir une base sérieuse pour voir dans quelle mesure nous progressons sur ces financements climat. Nous avons encore 10 minutes, donc on peut prendre une deuxième série de questions si vous avez d'autres questions. Oui, monsieur.
Bien, je vous remercie, Monsieur le modérateur, et vraiment pour les exposés que nous avons. Ma question sera très brève, hein, parce que je suis du NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement du continent africain, basé à Johannesburg. Et par rapport à l'intervention de notre collègue du Maroc, je voudrais juste savoir jusqu'à quel niveau vos actions intègrent la vision continentale de ces questions. De l'agriculture, du changement climatique, parce que vous savez très bien que nos pays, en tant que micro-États, sont actuellement peu outillés pour faire face à ces questions majeures. Et d'autre part aussi, j'ai constaté un tout petit peu qu'au niveau de l'agroécologie, le discours est de 20 ans en arrière. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore la possibilité d'utiliser ces techniques et résoudre les problèmes de nos petits producteurs agricoles africains. Je ne sais pas qu'est-ce qui est innovateur dans cette approche que vous proposez actuellement. C'était à peu près 2 questions que je voudrais éclairer ma lanterne. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, réactions ? Oui, monsieur.
Thank you very much, Gábor Figetsky from IFOM Organics International. I would like to thank to all the speakers for bringing this topic here to CFS and giving us a chance to discuss this in detail. We, as the Global Umbrella Organization for Organic Movements, are extremely happy that finally a government is ready to take up the idea of soil carbon sequestration as the focus area of the climate change negotiations. We have been advocating for this as members of the farmers constituency at the UNFCCC for many years now. We can only hope that the idea and the initiative thrown in this political arena will not be hijacked by big players in agriculture with vested interests. We also hope that the French government will be persistent enough not to be frightened by difficulties of assessing soil carbon, and their intentions will be guided by the true sustainability with a special focus on agroecology. On another note, we would also like to respectfully ask you to be thoughtful in your approach and communications on of the issue as an ultimate solution for climate change mitigation, and thereby giving excuse the big emitters. We can only wish you good luck and boldness for your initiative. Thank you very much.
Merci. Nous aurons besoin de votre soutien. On va devoir conclure cette réunion, donc je vais peut-être donner la parole d'abord à Monsieur El Guerrouj, à Marie-Hélène sur cette question, et puis aux 3 orateurs s'ils veulent présenter un mot de conclusion.
Je remercie notre ami du NEPAD pour la question. Je crois que ce sont 2 questions importantes et qui vont me donner un peu l'occasion pour mieux expliciter l'intérêt de l'innovation. Par rapport à la vision continentale, le résultat il est là parce que, comme je l'avais dit, le cadre du plan Maroc vert donne une priorité à la question de changement climatique. Et nous avons avec l'AFAO plusieurs pays africains, nous avons travaillé dans un transfert de technologie sud-sud. Nous avons maintenant le Gabon vert qui intègre parfaitement l'expérience marocaine par rapport à cette question et démarche changement climatique. Et surtout ce qui est très important, et je passe par rapport à l'innovation, c'est que nous avons travaillé avec le GEF depuis 2008 sur la question de l'intégration des composantes. Mais quelles composantes? Parce que vis-à-vis du changement climatique, les experts ils sont là, il y a beaucoup de mesures, mais il ne s'agit pas de faire un transfert direct d'une technologie. Il faut que ça soit adapté aux conditions du pays. Donc nous sommes basés sur la recherche agronomique nationale et sur une batterie de pratiquement 80 composantes, nous avons retenu dans le cadre du plan Maroc vert par territorial, par zone, une batterie d'une dizaine de composantes. Et l'innovation également, c'est une approche participative. Parce que c'est une approche participative et territoriale. Chaque population, chaque catégorie, il y a les éleveurs, il y a les producteurs et différentes productions. Donc à chaque niveau de zone, nous avons essayé avec eux d'apporter et d'intégrer la composante changement climatique. Et nous restons disposés à discuter, à transférer un peu l'expérience vis-à-vis de nos pays, zones d'Afrique. Merci.
Merci. Marie-Hélène, sur le lien notamment agroécologie et l'initiative 4 pour 1000.
Oui, c'est un petit peu dommage que le ministre n'ait pas pu rester parce qu'il vous aurait expliqué ça de manière beaucoup plus convaincante que moi-même, mais on n'a plus le temps de toute façon. L'agroécologie et le 4 pour 1000 sont tout à fait liés. Le ministre l'a expliqué cet après-midi dans plusieurs de ses entretiens. En fait, dans l'agroécologie, on travaille aussi beaucoup sur la biologie des sols. En fait, il s'agit de faire exprimer le meilleur potentiel de production en fonction des écosystèmes. Donc, et cette démarche participe aussi donc de la lutte contre le changement climatique. Donc en France, nous l'avons traduit de manière très systématique. Hein. C'était la volonté de Monsieur Le Foll à travers une loi, à travers des dispositifs d'appui aux agriculteurs, à travers l'enseignement également. Donc à préparer les futures générations à être formées à cette approche de l'agroécologie. Je dis pas c'est technique parce que c'est plutôt une approche, c'est de bien connaître les conditions de production pour pouvoir en tirer le meilleur et en utilisant au mieux les ressources naturelles. Voilà. Donc les deux sont complètement liés et la France continuera de travailler sur cette question. D'ailleurs, la démarche agroécologique, alors moi je ne sais pas si c'est démodé ou si c'était déjà fait il y a 20 ans, peut-être qu'on a déjà fait des choses, mais certainement qu'on peut faire mieux aujourd'hui que se pose de manière accrue la question de l'utilisation des ressources naturelles. On sait qu'on ne peut plus gaspiller et en plus il faut lutter contre le changement climatique. Donc on a vraiment intérêt à faire au mieux avec les données naturelles du sol, du climat aussi, tel qu'il est dans chacune des régions locales. Donc et d'où l'importance de bien analyser les conditions de production, aussi de faire travailler la recherche et l'innovation sur ces questions. Voilà. Je ne veux pas être trop longue, je pense qu'on a un petit peu de temps tout à l'heure pour peut-être des discussions bilatérales, mais voilà l'idée. Mais je pense qu'on va en reparler de toute façon, parce qu'on va en reparler à Paris le 1er décembre longuement, puisque nous aurons la Action Day sur l'agriculture et puis nous espérons aussi à cette occasion pouvoir lancer plus largement l'initiative 4 pour 1000. Donc, et comme le disait tout à l'heure le ministre, la COP21 c'est un début. Donc on compte également sur la COP22 et les autres COP qui vont suivre pour continuer ce travail sur l'agriculture dont on peut considérer qu'il va être initié et qu'il y a beaucoup de chemin à faire devant nous dans toutes les enceintes possibles, y compris bien sûr ici à la FAO. Merci.
Je ne sais pas si Madame Albert. de conclusion et puis je donnerai la parole à nos deux autres intervenants.
Well, thank you very much. I have few words about the agroecology and few words about the new French initiative. Maybe the responsibility of the promoters of the agroecology, they were not able to explain what exactly is. So agroecology is part of the traditional agriculture. What is happening in local African or Latin American countries, it's part of it, but it is not the whole of it. So it has an important scientific part of it, important biological side of it, and also is it's not a technique, it's an approach, which means respect to people, respect to local agricultural communities, and the human rights approach, and making societies much more friendlier to agricultural activity. So it is extremely important. The words are important. The very production-oriented policies also are presented in relation to climate change, what we talk about, the climate smart agriculture. It sounds like a very good way of dealing with the climate change with a new technique. But the problem is there is not enough scientific project development in relation to agriculture as much in relation to agroecology as much as climate smart agriculture. The difference between the two should be clearly explained, then the governments and the societies should make their own decision which direction they have to go. That's a very important thing to explain what is exactly happening. The same thing, a connection with the new French initiative, carbon sequestration, there are some criticism about the carbon sequestration. That's why it is important to wait and see and discuss, and especially with the smallholder farmers and the producers, whether or not they can make this carbon sequestration policy is an effective one. So again, we should not really hijack some new projects by some profit and the big interest. So again, civil society should be very careful about it. It has to be discussed and talk. Then we can make the decisions what is the best way, because at the end, we all would like to make a progress. So, but the progress should be more approachable and more discussed and understood by the people that they are not very familiar with this variety of the concepts that we are talking about right now.
Mesdames et messieurs, notre planète est en danger. Et je crois que il y a plusieurs exemples qui le montrent aujourd'hui. Dans les années 70, quand vous traversiez l'Atlantique pour aller aux États-Unis, vous aviez moins de secousses qu'aujourd'hui. Quand un A380 rebrousse de chemin parce qu'il ne peut pas affronter la tempête qui arrive, c'est du sérieux. Quand un Boeing 747 se casse le nez en descendant en Chine, c'est du sérieux. Quand un autre se casse la pare-brise en atterrissant aux États-Unis, à cause de la grêle encore, c'est du sérieux. Prenons les choses de façon vraiment très importante. Comme l'a dit Madame Lagarde à Lima, si nous ne prenons pas garde, dans 20 ans, nous allons tous être grillés comme des poulets ou rôtis. Et c'est très important qu'on le sache aujourd'hui. Il ne faut pas que ceux qui émettent beaucoup de gaz se cachent derrière des intérêts pour dire que les autres pourront faire la démarche. C'est du sérieux. En Afrique, où je me trouve aujourd'hui, on ne sait à quelle date semer. Et quand on sème, des fois on a un mois sans pluie. Donc la répartition temporelle et spatiale des pluies est devenue aléatoire. Et c'est très grave. Ne nous cachons pas, faisons des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, nous courons à notre perte. Je vous remercie.
Martin, pour un mot de conclusion.
Thank you very much, Ambassador. I know we are already over time, and I know food is waiting. I don't know whether we will have roasted chicken, but we're going to see that. So I shall be very, very brief. We are living in an expert world, and when you go to the climate negotiations, most of the people who are actually negotiators coming from ministries of environment, they're coming from ministries of finance, and the minority are actually coming from an agricultural background, so as basically everybody in this room. So I think our simple mission, if we go to Paris, is to say agriculture needs to play a role, and adaptation in practical terms for the majority of the membership of the United Nations countries actually means continue to bring food on the plate, or even finally getting food on the plate for these 800 million people who every day don't have enough food. So we shouldn't and we must not forget that the poorest of the poor, and again those who didn't contribute to the problem, are actually the very people who try to live on a tiny piece of land. And even if sometimes we differ in our approaches, I would very much hope that we all see ourselves as advocating for exactly these people. Thank you.
Merci Martin. Trois mots de conclusion de mon côté. J'essaye de faire de la diplomatie sans manier la langue de bois. Donc, un mot sur l'agriculture à la COP, pour reprendre encore une fois ce qu'a dit notre ami l'ambassadeur de Chine. La France est, selon les indicateurs qu'on prend, le cinquième ou sixième exportateur mondial de produits agricoles. Il est le premier exportateur de produits agricoles européens. Il n'était pas évident pour nous de porter le sujet de l'agriculture à la COP 21. On aurait pu choisir de garder le sujet sous le tapis. Et si notre gouvernement a décidé de le porter, c'est parce qu'effectivement, nous pensons que nous sommes à un tournant et qu'on n'atteindra pas nos objectifs de fin zéro si on ne prend pas en compte ces questions climatiques et la nécessité de transformer nos modèles de production agricole pour avoir des modèles de production plus durables. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'avant de porter ce sujet à l'international, on a fait notre devoir à la maison. Il y a un an et demi, le Parlement français a adopté une loi, qui est la loi d'avenir, et qui prévoit que d'ici 2025, 50% des exploitations agricoles françaises auront initié des approches agroécologiques. Dans un pays qui a longtemps construit son agriculture sur une agriculture très intensive, c'est une transformation majeure. Juste un chiffre que je voudrais vous donner, que le ministre a utilisé cet après-midi. Dans cette loi, il a été prévu de créer des GIEE, c'est des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, où plusieurs des sortes de coopératives, où plusieurs acteurs de la filière se réunissent pour promouvoir des approches écologiques. On a plus de 200 GIE qui ont été créés sur les 18 mois. Donc la dynamique, elle est possible et on peut changer les choses. Donc l'idée, c'est bien que l'agriculture soit dans l'agenda de l'action à la COP, parce que maintenant, il faut agir. Deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais tous vous remercier d'avoir assisté à cet événement, parce que on voulait vous donner cette perspective et ces informations sur la COP 21. Mais je voudrais dire quand même qu'il est un peu paradoxal pour moi que dans cette semaine sur du comité de la sécurité alimentaire, les questions qui touchent au climat, que ce soit ce side event ou d'autres side events qui ont été organisés sur la Climate Smart Agriculture, ont été organisées dans les side events parallèles. Et que dans l'agenda de la séance plénière, à aucun moment on abordera la question du dérèglement climatique et de ce lien entre sécurité alimentaire et changement climatique. Et ça me paraît quand même assez paradoxal et assez inquiétant pour la pertinence de notre comité s'il ne s'attelle pas à des sujets aussi lourds de sens pour l'avenir du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Et puis la dernière chose que je voulais dire, nous sommes ici dans l'enceinte des Nations Unies. Et souvent, on fait référence à la souveraineté des États. Beaucoup de délégations y sont très attachées. C'est normal, on est aux Nations Unies. La souveraineté des États, c'est important. Et la Charte des Nations Unies est totalement organisée autour du principe de la souveraineté des États et un État égale une voix. Mais il faut que nous ayons conscience que nous sommes la génération qui devons gérer les interdépendances, qu'on est dans un monde où les fléaux ne s'arrêtent pas aux frontières. Et cette question du changement climatique, on arrivera à la résoudre que si nous sommes capables, non pas de mettre en place des modes de gouvernance mondiale, ce serait bien ambitieux, mais déjà des stratégies coopératives et convergentes pour atteindre ensemble nos défis communs. Et nous avons besoin de vous tous à la COP, donc je vous demande de vous engager. Venez le 1er décembre, venez soutenir les initiatives et les actions touchant à l'agriculture et au climat, et venons tous ensemble amorcer le changement. Je vous remercie.